rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission culturelle où on prend la fiction au sérieux sans se prendre au sérieux, où l'on parle d'un art populaire au sens noble, la série télé. Ce soir, on voyage dans les mondes possibles et les miroirs du présent avec 6 séries qu'on a particulièrement aimées. Le Maître du Haut-Château, The Danish Woman, Tokyo Override, Éternel, Téhéran et Mike. Ce sont les coups de cœur de Amy, Aurore et moi-même Anne, et nous allons les présenter une à une avec notre regard critique en essayant de vous donner envie de les regarder au plus vite. Et c'est parti pour notre première série, une uchronie américaine, The Man of the High Castle. Écoutons la bande-annonce.
These films are reality like ours, but not ours. If I could
turn the page. This is our moment. We must not hesitate.
It's not safe here. You should leave.
This isn't the man I want to be. I'd like to resign.
You don't get to resign. Close my eyes.
Man is only as strong as the people around him, and for them, he must give everything. Or else everything he has done has been for nothing.
Alors, vous venez d'entendre la bande-annonce de cette série qui est une uchronie historique glaçante. Et qui est donc le maître du haut château ou The Man in the High Castle, donc série dystopique uchronique américaine que vous pouvez retrouver entre autres donc sur Netflix. Et elle pose une question qui est assez dérangeante. Et si les nazis et les japonais avaient gagné la guerre ? Alors bienvenue dans un cauchemar terrifiant où on imagine un monde avec un axe nazi-japon qui aurait gagné la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous sommes en 1962, les États-Unis sont divisés en 2 zones d'occupation, l'Est sous contrôle nazi, l'Ouest sous contrôle japonais, et avec une zone neutre au milieu, les Rocheuses. La série suit des personnages ordinaires pris dans cette réalité totalitaire, des résistants, et des films assez mystérieux qui montrent un autre monde possible où les Alliés ont gagné. Alors, c'est l'adaptation du roman anglais culte de Philip K. Dick, donc paru en 1962 avec Ridley Scott comme producteur exécutif. Donc on a 4 saisons, donc de 10 épisodes chacune. Donc voilà, des épisodes assez courts mais assez prenants, avec des thèmes puissants, bien évidemment le totalitarisme, la résistance, la réalité alternative, ce que signifie la vérité quand l'histoire est réécrite. Alors, il y a des ambiances vraiment visuelles incroyables. Les drapeaux, l'architecture, l'atmosphère oppressante, mais très esthétique malgré tout. Un casting remarquable, je trouve, avec Rufus Sewell qui joue le personnage de John Smith, qui est assez ambivalent, qui est un officier nazi-américain charismatique et complexe. On a aussi Alexa Davalos qui joue Julia Crane, qui est l'héroïne résistante. Mais vous avez aussi alors 2 personnages que moi je trouve assez intéressants, qui est donc l'antiquaire Robert Shildan, qui m'a vraiment beaucoup ému en fait dans la façon dont il évolue au fur et à mesure des 4 saisons. Après, bon, il se marie avec une japonaise. Enfin, voilà, vraiment à la dernière saison, ça m'a presque, j'avais la larme à l'œil. Enfin, j'essaie pas trop vous spoiler non plus, mais et l'inspecteur Kido aussi, qui est interprété par Joel de la Fuente. Pourquoi ? Parce que dans la saison 4, alors vous allez voir, c'est un tueur sanguinaire, mais alors par contre, dans la dernière saison, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il il fait toute une démarche de rédemption et notamment avec son fils. Enfin, il y a, voilà, il y a avec lui-même, mais aussi avec son fils, avec qui, voilà, il y a. Enfin, j'essaie de pas, voilà, vous spoiler encore, mais.
On sent que la quatrième saison t'a marqué.
Énormément, énormément. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la quatrième saison, où c'est là où vous allez avoir vraiment le résultat et la solution au mystère des films mystérieux, ce qui se passe derrière.
Pour ma part, j'ai regardé que le premier épisode, j'ai vraiment trouvé ça bien, et maintenant que tu dis que c'est Ridley Scott qui. Ouais. Qui réalise, je comprends mieux pourquoi.
Et en plus avec l'acteur de La Diplomate.
Exactement. Ouais. Et donc c'est vraiment une uchronie intelligente qui pose des questions vraiment très actuelles sur le pouvoir, les et si. Alors par contre, vraiment du côté plutôt philosophique, je dirais. Et la bande-son alors, et la réalisation, elles sont vraiment magnifiques. Donc il y a eu quand même un gros succès au niveau du public, mais je vous la conseille, je vous la recommande vraiment à 100%.
Je vais regarder la suite, Amy.
Merci, Amy. Donc, c'était notre première série ce soir, Le Maître du Haut Château. Et nous allons monter maintenant en Scandinavie avec notre deuxième série, dont on va écouter une partie de la bande originale. La voisine danoise, ou The Danish Woman, c'est une mini-série scandinave qui mélange espionnage et humour noir. On suit Ditte Jensen, une ancienne agente des services secrets danois, qui s'installe à Reykjavik, en Islande, pour une retraite paisible. Potager, vélo, copropriété. Mais elle ne peut pas s'empêcher de se mêler de la vie de ses voisins. Ça part toujours d'une bonne intention. D'ailleurs, elle coche toutes les bonnes cases. Justice, écologie, féminisme. Mais qu'elle tente de régler les soucis personnels de chacun, soit par la pédagogie douce, soit par la violence sourde, elle adopte une assurance plutôt flippante, tour à tour malaisante ou fascinante. Elle se fait redresseuse de tort, de gré ou de force. Les autres vont apprendre, même s'ils n'en ont pas envie. Ainsi, elle intervient tout le temps et à sa manière, radicale, expéditive. Et forcément, à force de s'immiscer dans la vie des autres, elle fabrique parfois plus de chaos qu'elle n'en répare. Et souvent, ça dérape. Le plus savoureux, c'est l'écart permanent entre la banalité des situations et l'intensité des solutions. Son comportement et son personnage nous surprennent constamment. C'est drôle, limite dérangeant et très efficace. La série est signée Benedict Erlingsson. C'est le réalisateur de Woman at War, avec déjà une héroïne prompte à l'action directe. Mais le vrai bonus ici, c'est son actrice principale, Trine Dearholm, qu'on a pu voir dans Festen et qu'on a pu entendre là dans la musique, parce qu'elle chante en plus, et très bien. Et elle est exceptionnelle. Elle passe d'un calme tout sage, ou glacial, à une énergie explosive en une seconde. Et sous la farce, la voisine danoise glisse aussi une lecture politique plutôt fine. Cette Danoise, si sûre de sa supériorité morale, impose ses règles aux Islandais. Et l'on sent en creux le passé colonial du Danemark en Islande, les vieilles tensions entre voisins scandinaves. L'Islande a longtemps été sous domination danoise, et la série en joue. Ainsi, on voit bien la question très actuelle des bonnes intentions quand elles deviennent une forme de pouvoir. Autre plaisir, le décor. On est à Reykjavik, et dans ces quartiers d'immeubles neufs, sans vraiment de charme, ça donne une identité visuelle très réaliste. Et surtout, à chaque épisode, débarquent des séquences chantées et dansées, presque des clips, décalés, irrésistibles, parfaits pour relâcher la tension après une scène absurde ou hyper violente. Sans parler de l'irrésistible générique, de début et de fin, qui est absolument génial, où l'héroïne danse en prenant de la hauteur, surplombant un magnifique paysage de côte islandaise. Le tout dans un format idéal, 6 épisodes vifs, décapants, totalement imprévisibles, qui nous font passer du rire à la sidération. Donc si vous cherchez une série qui change, qui surprend et amuse follement, La voisine danoise est un petit bijou de satire. déjantée, grinçante, très futée sur nos obsessions contemporaines du contrôle, de la morale, du bien qu'on impose. C'est sur Arte et sur Arte TV. Changement complètement de registre maintenant avec un animé Tokyo Override dont on va écouter aussi une partie de la BO.
Tokyo Override, c'est une mini-série animée de 6 épisodes, d'une vingtaine de minutes chacun. Autant dire que c'est vite dévoré. Alors, un peu comme tous les gens de ma génération, j'ai été élevée par le Club Dorothée, et les mangas de l'époque, hein, Sailor Moon, c'était mon préféré, je l'assume. Dragon Ball Z, Olive et Tom, Ranma 1/2, etc. Je pense que vous avez le tableau. Mais sorti de ça, j'ai jamais été une grande fan de manga, que ce soit à lire ou d'animé, à part évidemment quelques chefs-d'œuvre de Miyazaki et Mi, t'inquiète pas. Cela dit, le prochain roman que je suis en train d'écrire, attention exclu, sera le deuxième opus de la saga Les Jours de Cendre, que j'ai commencé avec le livre L'Héritage des Ruines sorti en octobre dernier et qui se passe dans le décor mystique des ruines mayas du Mexique. Mais voilà, chaque tome de cette saga d'anticipation est un one-shot qui se passe dans environ 200 ans dans le futur par rapport à notre époque actuelle. Et donc, le prochain roman aura pour décor le...
Mexique ?
Japon !
Japon ! Ah mince, je t'ai resté au Mexique.
Le Japon. Donc si je continue de traiter certains problèmes écologiques, climatiques, naturels, le décor joue beaucoup sur l'ambiance du roman et comment considérer le Japon du futur sans une vision ultra technologique. C'est pour cette raison précise qu'une fan de Japon et de manga m'a conseillé de regarder Tokyo Override et de me plonger dans cet univers cyberpunk. Alors si ici on ne sait pas exactement quand on est dans le futur, aucun doute, on y est néanmoins. Le ministère des Affaires numériques est celui qui a le plus de pouvoir dans cette mégalopole où tout est contrôlé de façon digitale. L'identité numérique de chaque personne est une donnée publique. Les déplacements sont surveillés en permanence par des murs invisibles que l'on franchit avec autorisation dématérialisée. Les achats sont visés numériquement. Et bien sûr, toutes ces datas sont collectées, stockées, croisées, vérifiées à chaque instant afin d'optimiser la ville et son fonctionnement de manière continue. C'est dans ce contexte de flux tendu des données que l'histoire démarre. On rencontre Kai, une hackeuse solitaire qui se met dans une situation un peu délicate à cause de l'une de ses amies, la seule peut-être d'ailleurs à ce moment-là de l'histoire. Pour se sortir du pétrin dans lequel elle s'est mise, elle va hacker le terminal d'identité d'une autre jeune femme, mais pas de bol, elle est tombée sur la mauvaise personne. Prise en chasse des deux côtés à la fois, Kai va découvrir l'envers d'un Tokyo qu'elle ne soupçonnait pas. Elle va malgré elle faire équipe avec un groupe de livreurs motorisés peu ordinaires, et mettre ses talents de hackeuse au service de cette équipe marginale, mais attachante. On baigne dans la tech, les décors d'ailleurs sont savamment imaginés, c'est assez chouette à voir, mais aussi dans la vitesse, tant des déplacements que des réflexions. Chaque nouvelle situation est traitée comme une urgence, chaque épisode nous embarque un peu plus loin dans les bas-fonds de ce Tokyo futuriste et flippant de réalité. Je terminerai juste avec une scène qui m'a fait beaucoup rire. vous me direz, enfin, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, mais aujourd'hui, les mairies ont tendance, aujourd'hui, hein, à mettre des stops à des endroits qui n'ont pas vraiment de sens pour la circulation, soi-disant pour la sécurité. voilà, parce qu'on est de bons moutons et que si on voit une grosse ligne blanche au sol, ben on va s'arrêter, même s'il n'y a ni piéton, ni passage, ni rue de part et d'autre. Bref, ils font aussi la même chose avec des feux récompenses. Vous savez, ceux qui passent au vert seulement si on roule à la bonne vitesse. Et alors, qui d'aime, ben, y a rien qui justifie un feu spécialement à cet endroit. Il n'y a pas de radar non plus. Donc voilà, toujours en tablant sur nos bonnes consciences collectives de bons moutons au volant. Et donc, dans la série, à un moment donné, ils assistent à une vente aux enchères. Et parmi les objets vintage mis à la vente, on retrouve un feu tricolore. La hackeuse n'a alors absolument aucune idée de ce qu'est cet objet. Et c'est un des motards de l'équipe qui lui répond « Ah, bah ça, ça servait à demander aux automobilistes de s'arrêter. » Absurde, n'est-ce pas? Et elle répond interloquée quelque chose du genre « s'arrêter, genre en pleine voie. » Et voilà, le passé pour ces personnages du futur n'a parfois aucun sens. Pas toujours plus que notre présent. Bref, la réflexion est ouverte. Je vous conseille donc Tokyo Override.
Oui, réflexion intéressante.
Puis les balades à moto, elles sont vraiment excellemment filmées. Enfin, c'est assez percutant.
Ah ouais, franchement, le c'est comme dans un film, alors que c'est en animé, quoi. Enfin, ouais. C'est assez chouette.
Ça fait penser à un jeu vidéo aussi, non?
Oui. Oui, on a l'impression qu'on pourrait être en train de diriger ces motos dans Tokyo, effectivement.
Alors, on va passer à notre quatrième série. Éternel, dont on va écouter la bande-annonce.
Le magazine Time l'a élu personnalité de l'année il y a 5 ans grâce à l'invention de ses bornes Eternal. C'est la personne la plus puissante au monde, Phoebe Carson. Alors première question, nous voulions parler de ces objets qui sont quasiment maintenant tous susceptibles de nous mettre en contact avec des personnes disparues.
Qui est là ?
Je fais partie de la brigade éternelle de la police fédérale. Notre travail, c'est d'entrer en contact avec des personnes décédées.
David est notre meilleur élément.
On est ici pour évaluer le profil de votre collègue David Novak et à ce qui s'est passé après la mort de sa femme.
J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi brisé. On l'enquête à piétiner pendant quelques temps pour être classé. Pour lui, l'assassin de sa femme court toujours.
Pourquoi tout le monde arrive à parler aux morts qu'ils aiment et pas moi?
Je vais la retrouver, je te le promets.
On a une demande de collaboration entre les services italiens et notre service. Ils sont à la recherche d'un objet disparu il y a à peu près 35 ans.
Et oui, Eternel pose une question assez cruciale. Et si on pouvait parler aux morts grâce à leurs objets les plus chers? Alors, cette série belge, vraiment toute récente, transforme l'enquête policière en conversation avec l'au-delà. Dans un futur proche, alors on a une technologie révolutionnaire appelée Eterna, qui permet de communiquer avec les morts via leurs objets les plus précieux, qui sont appelés les objets transitionnels, parce que c'est ce qu'on appelle de la transcommunication. Donc on a une brigade spéciale, la brigade éternelle, qui enquête en interrogeant littéralement les défunts. Donc au cœur de l'histoire, on a, comme vous avez pu l'entendre dans la bande-annonce, David Novak, qui est un policier hanté par le meurtre non résolu de son épouse, et Lara Di Angeli, mystérieuse agente italienne. Alors, chaque objet ouvre une porte vers le passé, mais aussi la vérité et le deuil. Alors, c'est une saison qui est composée de 6 épisodes actuellement, dans le genre vraiment polar fantastique, thriller d'anticipation, avec une forte dimension dramatique et émotionnelle. Donc sur le deuil, la mémoire, la vérité. Avec un casting belge et international. Donc on a Michael Abitbol, donc qui joue David Novak, Edwige Bally qui joue Lara Di Angeli, Alexia Depiker et d'autres comme Thibaut Van Der Born ou Gilles de Schriever. Donc cette série, elle est disponible gratuitement sur OVIO, donc en ligne, là depuis ce début de mois d'avril. Donc librement et légalement et gratuitement.
Ça existe, Émilie?
Ah oui, oui. Dans ce monde réel, pour le moment. Dans cet univers, ça fonctionne encore. Et effectivement, bah, c'est un univers qui est vraiment assez visuel et sonore, qui est quand même relativement unique, très immersif aussi, ça j'ai beaucoup apprécié. Donc on reste un peu encore dans l'univers justement de l'immersion, de l'univers parallèle un petit peu. Et elle nous interroge aussi donc, sur notre rapport donc, aux morts, aux défunts. Et je trouve que c'est une série qui marque, pourquoi? Parce que c'est une création originale belge, ambitieuse. Donc, vraiment la croisée polar de la science-fiction douce, je tiens quand même à le dire. Donc, vous pouvez le regarder deux jours comme deux nuits, il n'y a pas de problème. Et du drame familial. Et c'est très, très émouvant et original. Et ça me fait vous poser aussi une question. Alors, autant à vous, chers auditeurs, mais aussi à voilà, mes compatriotes aujourd'hui présents. Donc, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez justement à disposition ce type de borne et à qui vous pourriez parler ? Alors, ça peut être aussi une personnalité voilà, connue ou...
Ah. Ça, bah, là, comme ça, on est un peu pris au dépourvu, là, Amy.
Tout bêtement, moi, ce serait ma mère. Mais
Oui, ça aurait été, je pense, la première chose que j'aurais eu envie de dire aussi, ou ma grand-mère. Mais quand tu as dit personnalité connue, potentiellement, Anne, il y a forcément un auteur qui t'a envie de parler. Moi, ceux que j'aime, ils ne sont pas encore morts, donc...
Ça fera peut-être l'objet d'une autre série.
Gainsbourg, éventuellement.
Ah.
Et toi, Amy ?
Moi, c'est autant des personnes, oui, aussi de ma famille, des anciens que j'ai peu connus. Puis en termes de personnalité, ça serait plutôt, par exemple, Charlton Heston. J'aimerais bien voilà, lui demander un petit peu, poser plein de questions voilà, sur sa filmographie, sur sa vie, voilà.
Les pauvres, même morts, on les dérange encore, on ferait que ça.
Alors, pour notre cinquième série, nous partons en Iran. C'était la musique du générique de la série Téhéran, dont j'ai déjà parlé de la première saison que j'avais adorée. Mais là, je ne peux pas résister à l'envie de vous en reparler parce que maintenant, il y a 3 saisons. Vous recherchez une série d'espionnage qui vous happe dès les premières minutes et ne vous lâche plus. C'est la meilleure série pour ça. Donc, une série israélienne créée par Moshe Zander, l'un des scénaristes de Fauda, et c'est disponible sur Apple TV+. On y suit Tamar, une jeune hackeuse et agente du Mossad. Elle est née à Téhéran et elle est envoyée sous couverture en Iran pour saboter le programme nucléaire. Sauf que la mission déraille et Tamar se retrouve coincée sur place, traquée par le contre-espionnage iranien. À partir de là, chaque épisode devient une course contre la montre. Ce qui fait la force de Téhéran, c'est d'abord son rythme, une tension qui monte très vite, des retournements en cascade et un sens du suspense qui privilégie l'intensité plutôt que la démonstration. Mais ce n'est pas qu'une série d'actions, elle parle aussi d'identité, d'exil, de loyauté, de dilemmes moraux, avec son héroïne tiraillée entre sa foi, son devoir et la redécouverte du pays dont est originaire sa famille. Autre réussite, c'est l'immersion. La série est tournée en farsi et en hébreu et elle recrée Téhéran. Parce qu'en réalité, elle est filmée à Athènes. Mais elle recrée Téhéran avec un vrai soin, loin des clichés cartes postales, cherchant à mettre en scène une représentation convaincante de la vie quotidienne dans la capitale iranienne. Et surtout, on n'a pas un regard manichéen. On y voit les tensions politiques, sociales et culturelles, les divisions internes, la méfiance généralisée, mais aussi une proximité entre les peuples, par-delà les régimes. Et il y a ce trouble particulier. Téhéran jongle constamment avec l'histoire et la fiction, tant l'actualité vient la rattraper. Piratage, menaces autour du nucléaire, opérations clandestines, sabotage. La série flirte avec des faits qui semblent parfois se rejouer presque en temps réel. Et on y voit la performance de la capacité technologique d'Israël pour enquêter et intervenir. Sur 3 saisons, la mécanique s'affine, le récit se tend, les alliances mouvantes, rapports de force. Et à partir de la saison 2, la série s'ouvre avec un casting international puisqu'elle accueille Glenn Close et la saison 3, Hugh Laurie, qui interprète un inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans une intrigue centrée sur la surveillance du programme nucléaire. Alors oui, on n'est pas dans la complexité de la série The Wire, mais Téhéran, mine de rien, dit beaucoup du présent et de la réalité de l'Iran contemporain. Elle nous donne quelques clés pour comprendre les enjeux, la façon dont Israël et l'Iran combattent, mais aussi la souffrance du peuple iranien. Et tout ça en assumant le grand spectacle, avec un bon mélange efficacité du thriller, immersion, ambiguïté morale, qui la rend impossible à abandonner une fois lancée.
Une série qui plaira à mon chéri, je pense.
Oui, mais c'est vraiment passionnant.
Je regarderai avec lui, t'inquiète pas.
Ouais. Je pense que ça peut vraiment te plaire. On va passer à un autre registre avec la série Mike. Quel mystère. De quel Mike allons-nous parler? Écoutons la bande-annonce.
Who am I?
People just see an animal. They call me a savage. I'm the most vicious, ruthless champion that's ever been. No one can match me. My style's impetuous. I'm ferocious. I want your heart. I want your children. Praise be to Allah. Is that who I am?
Whether I'm right.
I gave you life. Now you heading down the path of a doomed child.
Or whether I'm wrong.
It's coming, Mike. It's coming.
Whether I find a place in this world.
That filthy place, it may become what I needed to become.
Or never be wrong.
You Muhammad Ali now.
I'm going to be the youngest heavyweight champion in the world.
I want to live.
You got to be the meanest fighter God ever created.
Not merely survive.
Et pour cette mini-série, j'ai eu envie de vous faire un petit quiz à la question pour un champion. Donc je serai votre Julien Lepers de 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête?
Allez.
Allez.
On y va.
Ouais. Je suis une mini-série de 8 épisodes sortie sur Disney+ en 2022. Mon titre éponyme évoque le biopic d'un célèbre sportif. J'explore l'histoire controversée et mouvementée de cet athlète de très haut niveau en arpentant les hauts et les bas de sa carrière. Je n'oublie pas non plus de parcourir sa vie personnelle pour expliquer d'où il vient et mettre en lumière son comportement souvent jugé sauvage. En me concentrant sur ce sportif, j'en profite pour examiner les problématiques des classes sociales et de la race aux États-Unis, la célébrité et le pouvoir des médias, la misogynie, l'inégalité des richesses ainsi que la promesse du rêve américain. Le sport de prédilection du sportif que je présente est la boxe. Il a été champion du monde poids lourd à de nombreuses reprises à partir de 1986. On le surnomme Kid Dynamite ou encore Iron Mike, mon nom est...
Mike Tyson.
Oh bravo. Et oui, Mike Tyson. Alors personnellement, je ne m'intéresse pas particulièrement, voire pas du tout, à la boxe. Mais par contre, j'aime les biopics, j'aime savoir comment une célébrité en est arrivée là où elle est, et connaître l'envers du décor. Si la série est inspirée de faits réels, il va sans dire que certains personnages, incidents, lieux ou dialogues, bien sûr, ont été dramatisés pour les besoins évidents d'une telle production. Cela dit, il y a régulièrement des notes en fin d'épisode qui replacent la vérité actuelle des faits, et ça, c'est très appréciable. Mike Tyson a toujours été une personnalité publique très controversée, à la fois adulée, à la fois rejetée, et cette ambivalence rend la mini-série très dynamique. À travers le prisme de ce champion, la production traite aussi de sujets de fond, ce qui ne gâche rien. Par moments, le personnage principal adulte, qui narre les faits, comme un showman plein de recul, s'adresse directement aux téléspectateurs. Cette façon de faire qu'on avait déjà découvert dans la série House of Cards en 2013 reste un très bon moyen d'interpeller le public et de nous immerger dans son histoire. Voilà, donc la mini-série Mike, à voir pour les amateurs de biopics réussis, pas sordide du tout, pas voyeur non plus, mais assez juste sur le boxeur et la société américaine de l'époque, même si, effectivement, Mike Tyson n'était pas très très d'accord pour que cette série sur lui sorte.
Et du coup, ils l'ont sorti quand même, sans son autorisation?
Je suis pas sûre que t'es vraiment... Enfin, s'il y a pas de choses malveillantes, en vrai, t'as pas forcément besoin de l'autorisation, mais c'est mieux si t'as... Si c'est approuvé, mais en vrai,
oui,
ils ont le droit quand même, tu vois.
Alors, les 6 séries dont nous avons parlé aujourd'hui, Le Maître du Haut Château, The Danish Woman, Tokyo Override, Éternel, Téhéran et Mike. Demain, à 17h, à la bibliothèque Saint-Corneille, un café philo sur un thème surprise. Mercredi 15 avril à 14h30, nous aurons une conférence des cyberbases sur la cybercriminalité 2.0. Le prochain apéro culture à la bibliothèque sera le samedi 30 mai à 11h. Et notre prochaine émission sur notre radio préférée Graphite, le vendredi 22 mai à 18h. Merci beaucoup, Amy, Aurore. Et on vous souhaite à tous un très bon week-end et regardez bien plein de séries.